l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nous avons essayé de voir comment cet entretien tout de suite s'orientait vers le fondement, si vous voulez, de toute théologie, le mystère de la grâce. C'est vraiment ça en premier lieu que Jésus rappelle à Nicodème, parce que Nicodème l'a un tout petit peu oublié. Il croit que descendre d'Abraham selon la chair et le sang est l'essentiel. Et Jésus rappelle que tout homme, et Nicodème est impliqué dedans, s'il ne naît pas de nouveau de l'esprit et de l'eau, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et sa voix tu l'entends. Mais tu ne sais ni, tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Alors je vous disais que c'est très important pour nous de saisir à la fois la distinction que Jésus fait, parce que c'est ça qui est l'origine. La confusion est l'origine de ce blocage, de cette impossibilité d'entrer dans le mystère, et le point de vue de l'analogie, de la comparaison. Une analogie ici, évidemment, qu'on dirait dans un langage philosophique, une analogie un peu métaphorique, mais c'est quand même une analogie. C'est quand même une très belle comparaison. Du point de vue poétique, c'est merveilleux. Et c'est un symbolisme divin, pour nous faire entrer dans la situation de celui qui est né selon l'esprit. Il est dans la situation de celui qui entend la voix du vent, mais il ne sait pas d'où il vient et ni où il va. Donc il faut que le croyant, comme croyant, accepte de ne pas comprendre la conduite de Dieu sur lui. Autrement dit, ne pas diriger ses esprits, ce qui n'est pas commode. Ce serait tellement plus agréable de diriger Saint-Esprit et de le diriger dans le sens où on le veut, vous voyez. Et quand le Saint-Esprit ne va pas dans le sens où on le veut, on dit que c'est plus de Saint-Esprit. C'est vrai, il y a toujours un petit peu ça chez nous, hein, faut reconnaître. Et alors chez les docteurs en Israël, encore plus. Le fait de vouloir canaliser l'Esprit Saint. Et de ne pas être dépendant de l'Esprit Saint, de ne pas se mettre totalement dans cette dépendance de l'Esprit Saint. Celui qui est totalement dépendant, celui qui suit, ne sait pas où il va. Il suit, il est relatif à. De même, celui qui entend la voix de l'Esprit, la voix du vent, qui est dépendant de l'Esprit Saint, il est dépendant de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Et il ne peut pas raisonner sur la conduite de l'Esprit-Saint. C'est la petite balle du bon Dieu. Hein. C'est exactement ça. C'est accepter d'être là, et puis c'est tout. C'est le Saint-Abandon. Et le Saint-Abandon, c'est justement cette acceptation de mourir à sa raison pratique. Parce qu'il y en a qui meurent assez facilement à la raison spéculative. Mais qui meurt beaucoup plus difficilement à la raison pratique. Alors c'est mourir aussi à sa raison pratique. Accepter d'être conduit là où le Saint-Esprit veut qu'il nous conduise. C'est le don de conseil qui nous permet de comprendre cela. Et de laisser l'Esprit-Saint nous conduire. C'est très très beau cette affirmation du mystère de la grâce. Hein. C'est une naissance qui vient d'en haut. Elle vient de l'esprit. Elle vient de l'eau. On essaiera d'expliquer ça progressivement. Je vous l'ai déjà fait au terme de la dernière fois. Et puis, cette naissance, elle se fait dans l'obscurité. Elle se fait dans l'obscurité de la foi. On est dans l'état de celui qui entend uniquement la voix du vent. Et il ne peut pas lui-même diriger. Nicodème répondit et lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Donc, il avoue là qu'il ne comprend pas. Il est tout seul. Jésus répondit et lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas cela. La chose élémentaire, la grâce, c'est élémentaire. Et tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas cela. Donc Jésus va l'humilier. Il n'y a rien de plus humiliant pour un docteur de lui dire qu'il ne sait pas, parce que normalement il enseigne les autres. Donc il sait et il sait en surabondance. Tandis que là, Jésus montre tout de suite qu'il ne sait pas. Et tu ne connais pas cela. En vérité, je te le dis, c'est de ce que nous savons que nous parlons et de ce que nous avons vu que nous témoignons. Et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Alors, c'est pas seulement Nicodème, hein. Nicodème, là, fait corps avec toute la caste, avec tous les théologiens, avec le Sanhédrin. Ça, c'est très net. Avec les pharisiens. Si lorsque je vous dis les choses de la terre, vous ne croyez pas, les choses de la terre, c'est les signes que Jésus donne, comment croyez-vous si je vous dis les choses du ciel ? Alors, à partir de là, Jésus se présente. Et nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. C'est une présentation très extraordinaire. C'est la présentation dans le style du prophète Daniel. Ça, c'est le lien, tout à fait. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Jésus montre que le ciel, c'est lui. L'échelle de Jacob, hein. Les anges qui montent de la terre au ciel. Et c'est le mystère du Christ qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et le ciel est présent dans le Christ. Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Lui, il est au ciel. Le Fils de l'homme qui est au ciel. Le Fils de l'homme est au ciel et le Fils de l'homme, c'est lui. Alors, donc, le mystère de l'incarnation. Vous voyez la manière dont Jésus présente le mystère de l'incarnation. Un docteur en Israël. C'est très beau. C'est Daniel et puis le songe de Jacob à Bethel. Il y a les deux. Puis le mystère de la rédemption. Et le mystère de la rédemption, c'est alors, c'est Moïse. De même que Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Alors le geste de Moïse, ce geste de Moïse qui est très difficile à comprendre, c'est bien évident. C'est pas commode du tout. Mais quand regardez les explications qu'on donne, on dit c'est de la magie, c'est là. Non, c'était un geste prophétique. Et Jésus en donne la signification. Moïse devait faire ce geste pour annoncer la mort du Christ. Symboliquement, d'une manière efficace. Évidemment, ça c'est. Vous voyez, là on voit très bien l'exégèse à court terme et l'exégèse à long terme. N'est-ce pas? L'exégèse à court terme, c'est d'expliquer ce que Moïse pouvait comprendre selon les circonstances de temps et de lieu. Alors, ça va pas très loin. L'exégèse à long terme, c'est d'essayer d'expliquer comment il y a un auteur principal de toute l'écriture et comment Moïse annonce le Christ. Et que le geste de Moïse au désert, eh bien, prend toute sa signification avec la croix du Christ. Et Jésus est là pour donner lui-même l'herméneutique. Ça, je crois qu'en théologie, en théologie vraiment mystique, on doit le dire. En théologie biblique, on doit bien montrer la différence et bien montrer les différents moments. De même que Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme. Alors vous voyez que le serpent a un double symbolisme. Et selon la tradition religieuse, il a toujours un double symbolisme. Il a le symbolisme de l'animal rusé qui tente. Il a le symbolisme de la sagesse. Ça aussi, ça fait partie du langage symbolique. Le langage symbolique peut unir les deux. Et on comprend, parce que la sagesse qui vient, la sagesse qui est annoncée, qui est Jésus, Jésus crucifié, c'est la nouvelle sagesse. Or, Jésus crucifié prend la place de celui qui est mordu par le serpent. Pour vaincre le serpent. Ce qui porte l'iniquité du monde. et selon toutes les traditions du reste du Talmud, le serpent exprime bien le point de vue de la sagesse. De même que Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Alors de nouveau, le mystère de la foi qui nous introduit dans la vie éternelle. Vous voyez ? Le mystère de la foi nous introduit dans le royaume de Dieu. Et ici, il est montré la vie éternelle, c'est le royaume de Dieu. Dieu en est fait. Alors ici, on va une réflexion théologique. Après avoir montré le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, on nous donne la signification du mystère de la rédemption. En donnant la cause. C'est en donnant la cause du mystère de la rédemption qu'on donne la signification plénière du mystère de la rédemption. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, l'unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, la cause du mystère de la rédemption et de l'incarnation, c'est l'amour du Père pour le monde. Alors, le monde est pris ici pour les hommes. Il faut toujours faire grande attention. Vous savez bien que le monde dans Saint Jean peut avoir deux significations totalement différentes. Le monde peut exprimer l'homme que Dieu aime, qui est créé à son image, malgré le péché et au-delà du péché. Et le monde peut représenter ce que le Père n'aime pas, c'est-à-dire ce qui est sous la mouvance du démon. Ça, c'est dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, vous avez ce point de vue du monde. Et dans l'évangile de Saint Jean également, si le monde vous hait, c'est pas celui-là que le Père aime. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, l'unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la cause du mystère de la rédemption, l'amour du Père pour les hommes. C'est très important. C'est la dernière lumière à ce mystère de la rédemption. C'est l'amour du Père. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde. S'il envoyait le Fils pour juger le monde, ce ne serait pas une œuvre d'amour en premier lieu et d'une manière ultime. Ce serait une œuvre de justice. Remettre les choses en ordre. Supprimer l'anarchie. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc il est sauvé dans l'amour et la miséricorde. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Alors ça, c'est très important, parce que ça nous fait comprendre ce que c'est que la foi. La foi nous met au-delà du jugement. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Croire en l'amour, ça qui doit nous faire comprendre la grandeur des vertus théologales. Les vertus théologales font de nous des amis. Et donc la foi nous met au-delà de la servitude du péché. Enfin, ça ne veut pas dire que parce qu'on a la foi, on n'a plus besoin de s'accuser de ses fautes. Hein. Non, au contraire, ce n'est pas du tout en opposition. Mais la foi nous donne le sens du péché. Mais Saint Jean fait comprendre ici qu'il y a quelque chose qui est suprême, c'est la foi en l'amour. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas voulu croire en le nom de l'unique Fils de Dieu. Donc c'est assez net. C'est de montrer que la foi dans le Christ sauveur, la foi dans le Christ rédempteur, la foi dans la rédemption, l'année de la rédemption, la foi dans la rédemption nous met au-delà du jugement. Tandis qu'au contraire, ne pas croire en la rédemption, ne pas croire que Jésus est l'unique sauveur, bien c'est ce que font tous les athéismes. Toutes les idéologies athées hein, prétendent que l'homme doit sauver l'homme. Donc c'est rejeter le mystère de la rédemption. C'est au cœur de tous les athées. Tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc Saint Jean, Jésus précise ici, Jésus dans Saint Jean, précise ici quel est le choix qui est donné à tous les hommes? Tel est le jugement, donc le discernement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Le choix est toujours là que les hommes... le choix que les hommes font est toujours là. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et la raison, c'est parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On aime ce qui vient de nous. Et ce qui vient de nous est mauvais, on préfère rester dans l'obscurité que d'avoir la lumière. C'est terrible. Mais c'est ça qui nous empêche d'aller à la lumière. C'est ça qui nous empêche de rechercher la vérité et de la rechercher pleinement et totalement. C'est qu'au fond, on aime mieux ce qui vient de nous. Peu importe que ce soit beau ou laid, hein. Pour une mère de famille, hein, son enfant est toujours le plus beau de tous les enfants. N'est-ce pas ? Même si les autres disent à ce qu'il est triste, et la mère dit quand même, heureusement, du reste que la mère en se regarde là. C'est beau, ça. Parce qu'elle l'aime. Alors, à travers son amour, c'est autre chose. C'est un peu aussi comme ça pour le père. Forcément. Parce que, ce point de vue-là, l'amour précède la connaissance. Et on connaît à travers l'amour. Mais c'est très très fort, ce jugement qui est précisé ici. La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Normalement, on ne préfère pas les ténèbres à la lumière. Comment préférer les ténèbres à la lumière? C'est très simple, car leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont préféré leurs œuvres à la lumière. Tout homme, en effet, qui commet le mal, déteste la lumière. Parce qu'il commet une œuvre mauvaise, et il aime son œuvre. Et ne vient pas vers la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient vers la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres sont opérées en Dieu. Vous voyez donc ce qui nous est montré ici, le partage qui se fait entre ceux qui cherchent la vérité et ceux qui ne la cherchent pas. Ceux qui sont attirés vers la vérité et ceux qui la rejettent. C'est à cause de leurs œuvres. On comprend très bien le jugement immédiat. Voyez que ce discours de Jésus, ce premier discours de Jésus, c'est sur le mystère de la grâce. En nous donnant toutes les causes de la grâce. Et donc on peut dire que mystiquement, Jésus nous montre ce qu'est la contemplation. Vivre de la présence de Dieu par la grâce. Alors vous avez toutes les causalités qui sont présentées ici. La causalité ultime de la grâce, l'amour du Père. Puis l'Esprit Saint, causalité propre. Causalité instrumentale, le mystère du Christ dans la rédemption. Notre propre concours, l'eau, et je crois qu'on peut dire l'eau, la médiation de Marie. Ça, évidemment, c'est plus difficile de le dire immédiatement d'après le texte. Mais je crois qu'on peut le dire en fonction de tout Saint Jean. À la croix, Jésus nous donne Marie comme mère. Et donc, Marie, c'est bien l'eau. C'est l'eau. Ne disons pas que l'eau ici, c'est l'eau du baptême, voyez. Il faut dire que l'eau du baptême, c'est à cause de cette eau-là. Parce que c'est vrai, c'est le mystère de Marie et le mystère de notre propre volonté, notre bonne volonté. Notre propre bonne volonté, c'est l'eau. Et c'est la volonté de Marie. La maternité de Marie, c'est l'eau. L'eau qui est dans le sang de la croix. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Et là, vous les retrouvez ici.
Vous trouvez donc cinq causalités pour le mystère de la grâce. C'est très beau. Voyez la différence, hein, nous faisons le traité de la grâce scientifiquement avec saint Thomas, et ici, vous avez le traité de la grâce mystiquement. C'est donné dans une espèce de lumière étonnante sur les cinq causalités et par le fait même les cinq présences. On est présent à quelqu'un dans la mesure où on agit sur lui. Par le fait même, vous avez les cinq présences qui nous sont données à travers la grâce. Par la grâce, le Père est présent, parce que c'est lui qui nous donne son amour. Par la grâce, l'Esprit Saint est présent. Par la grâce, Jésus, dans son humanité sainte, est présent, et le Verbe de Dieu. Par la grâce, Marie est présente. Par la grâce, nous sommes présents divinement à nous-mêmes. Les cinq modalités de la présence, qui donnent tout le grand traité de la contemplation. La contemplation porte sur le Père, porte sur l'Esprit Saint, porte sur Jésus. Elle porte sur Marie, et dans la contemplation, Dieu peut nous faire comprendre que nous répondons pleinement à son appel. Oui, si je prends le sens mystique de ce discours de Jésus à Nicodème, il nous conduit tout de suite à comprendre le sens plénier de la grâce. Remarquons que Jésus ne demande pas à Nicodème s'il est d'accord. Il ne faut jamais demander à l'intellectuel s'il est d'accord. Au point de vue apostolique, c'est très très important. Vous avez le droit de demander ça à des enfants. Mais pas à un docteur en Israël. Ne faites jamais ça. Jésus n'a pas demandé à Nicodème, es-tu d'accord? On verra que Nicodème est d'accord quand il sera au pied de la croix. Voilà le fruit. Mais il n'y a pas demandé. Je trouve ça très beau. Mais il y a une différence avec la Samaritaine. Tout à fait différent. La Samaritaine, elle proclame sa foi. Pour un intellectuel comme Nicodème, c'est pas commode. Et Jésus le sait. Alors il est infiniment miséricordieux. Vous êtes infiniment miséricordieux vis-à-vis des intellectuels. Parce que plus leur intelligence est développée, plus c'est difficile pour eux d'être des tout petits. C'est vrai, c'est le service le plus difficile d'être des théologiens, surtout dans le monde d'aujourd'hui. C'est le service le plus difficile. Et donc il y a une très grande miséricorde du Christ qui enveloppe Nicodème comme docteur en Israël. Et il l'enveloppe vraiment dans sa miséricorde. Il le porte dans sa miséricorde. C'est la première vision de Jésus, n'est-ce pas, auprès de son peuple. Et c'est le théologien. Alors vous comprenez le cinquième mystère joyeux. Saint Luc, mettez ça en parallèle. La première prédication du Christ, c'est pour les théologiens. Dans sa vie cachée, quand il a 12 ans. Et c'est une prédication extrêmement miséricordieuse, puisque c'est par l'interrogation, il interroge. Voulant que les théologiens aillent plus loin. Les exigeant d'aller plus loin. Et ceci pendant que Marie souffre. N'ayant pas demandé à Marie la permission de fort externe. N'ayant pas demandé à Joseph la permission. Ayant été sous le souffle de l'Esprit. Faisons attention, hein, quand il s'agit d'imiter. Hein. Vous n'avez plus 12 ans. C'est très beau, ça, c'est extraordinaire. Premier enseignement de Jésus pour les docteurs en Israël. Le premier enseignement de Jésus dans sa vie apostolique, selon saint Jean, le premier enseignement magistral, c'est pour un théologien. Pour que ce théologien se convertisse. Et ce théologien sera à la croix. Mais ça montre l'amour du Christ pour l'intelligence au service de la foi.
ça montre l'amour du Christ pour ce service éminent de la théologie.
Il faut souvent se rappeler ça.
Quand on est par vocation consacré à la théologie, il faut comprendre que c'est vrai, c'est très périlleux. Toujours. Chaque fois qu'on cultive son intelligence, c'est très périlleux. C'est pour ça que les bons sulpiciens disaient « pas trop, cultivez votre intelligence, parce que vous deviendrez orgueilleux. » Alors restez avec beaucoup de dévotion, beaucoup de piété, mais surtout pas trop développer l'intelligence. Et on comprend très bien que c'est vrai, c'est plus difficile de rester humble avec une intelligence développée. Mais c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus grand. Parce qu'on offre son intelligence à Dieu. Et l'Église le veut. L'Église le demande. Et c'est vrai, les grandes pénuries de l'Église, c'est quand il n'y a plus de théologiens. Je me souviens, le nonce de Dakar me disant ça, il y a déjà un certain nombre d'années. Il revenait d'avoir salué Paul VI, il revenait de sa visite à Limina. Et comme chaque fois que j'allais à Dakar pour prêcher, j'allais le saluer parce que je savais que ça lui faisait plaisir, les nonces dans... En Afrique, on les voit plus facilement, disons, que chaque fois que je vais à Paris, je ne vais pas voir le nonce. Tandis que là, c'est ça un peu trop, disons, tandis que là, j'allais le voir régulièrement. Et puis, il revenait de Rome, il était triste. Il m'a dit, je peux le répéter ici, il m'a dit, Paul VI m'a dit sa détresse. Parce qu'il ne peut plus demander aux théologiens habituels, les dominicains et les jésuites. Il n'y en a plus. Alors c'est rare quand il y a une pénurie de théologiens. Ça m'a frappé, ça. Je l'ai gardé dans mon cœur. Parce que c'est vrai. C'est vrai que c'est très grave quand il n'y a plus une pénurie de théologiens. Alors, il y a une pénurie de théologiens quand il y a une pénurie de philosophes. C'est pour ça qu'il faut la philosophie en vue de la théologie. Mais c'est vrai, ça, quand il y a une pénurie, quand de fait, on ne peut plus compter sur les théologiens. Et pour si j'avais dit, oh non, c'est le nonce me l'a répété. En disant, je sais très bien que vous allez comprendre ce que je veux dire. Je le connaissais bien, donc il pouvait dire ouvertement ce qui lui pesait au cœur. Et alors, c'est très grand de voir Jésus donnant à Nicodème cette grande leçon de théologie. Cette grande leçon de théologie, tout entière centrée sur la grâce. Et vous voyez que tout y est. Hein. La grâce, l'incarnation, la rédemption, le péché. Tout est donné là. C'est ça l'essentiel. Hein. Vous comprendriez pleinement et totalement cette leçon de théologie de Jésus faite à Nicodème, vous savez toute votre théologie. Alors, il faut l'expliciter un peu. Mais tout est là. Surtout si on la vit d'un point de vue profond et contemplatif. Alors, tout est là. Alors là, on découvre quelque chose qui va très loin. Après cela, Jésus vint avec ses disciples en terre de Judée. Avant d'avancer, je réfléchis un instant sur ces trois premiers moments de la vie apostolique de Jésus. Je crois qu'on peut dire que ces trois premiers moments sont sous le signe du témoignage de Jean-Baptiste. Voici l'agneau. Et je dis ça parce que à partir de ce chapitre 3, verset 22, comme nous allons voir, c'est encore Jean-Baptiste. Mais ce n'est plus le mystère de l'agneau, c'est le mystère de l'époux qui va apparaître. Et donc on va entrer dans le cycle de l'époux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, le cycle de l'agneau implique Jésus à Cana, Jésus qui chasse les vendeurs du temple, Jésus face à Nicodème. Ceci est réservé à Israël. Cana, c'est les amis de la Galilée. Le temple, c'est le lieu par excellence où les Juifs se retrouvent, et Nicodème, c'est l'intelligence d'Israël. Alors, c'est assez étonnant de voir que ces trois premiers gestes de la vie apostolique de Jésus sont réservés à Israël, alors que à partir de ce nouveau témoignage de Jean-Baptiste, où nous allons entrer dans le cycle de l'époux, vous allez voir Jésus qui va briser les limites. Et donc nous entrons dans une prédication qui va être beaucoup plus universelle. Tout de suite, Jésus a une prédication beaucoup plus universelle. Mais il a fallu quand même qu'il réserve le point de départ de sa vie apostolique aux brebis d'Israël. Ceci, c'est net. Alors, vous avez donc deux gestes et un discours. Et comprenons bien que c'est réservé à Israël la miséricorde de l'agneau. Parce que c'est vraiment la miséricorde de l'agneau qui nous est montrée là. Miséricorde de l'agneau à l'égard d'une misère temporelle. C'est beau de voir que Jésus est attentif à cela. Il manque de vin dans un pays de vin pour un jour de fête, un repas de noces. C'est invraisemblable et ça ne doit pas être comme ça. Donc on voit très bien que c'est à l'égard d'une misère temporelle que Jésus réalise ce geste, son premier geste. Le premier signe qu'il donne. Ensuite, c'est à l'égard d'une misère spirituelle, la confusion entre le sacré et le profane, qui fait qu'à ce moment-là, on n'adore plus comme on devrait adorer. Et troisième misère, la misère de l'intelligence au service de la foi. La misère de la théologie. Ce sont les trois grandes misères que Jésus regarde sur le peuple d'Israël. C'est assez étonnant de voir ça, du reste. Parce qu'alors, on découvre les trois grandes miséricordes de l'agneau. L'agneau est venu en premier lieu pour donner la lumière. Il est venu pour, de fait, purifier le temple, remettre l'adoration. Et enfin, l'agneau vient pour que l'amour humain puisse s'épanouir pleinement dans la joie de tous ses convives. Alors maintenant, voyons ce nouvel axe qui est donné par Jean-Baptiste. Après cela, Jésus vint avec ses disciples en terre de Judée. Et là, il séjournait avec eux et il baptisait. Jean aussi était baptisé à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et les gens se présentaient et ils étaient baptisés. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. On souligne ça, il circule librement, autrement dit. Il est encore libre. Il y eut donc une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Vous voyez, des disputes au niveau proprement liturgique. Ils vont amener des petites batailles. Il y eut donc une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Et ils vinrent vers Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, tu es responsable de tout ça, le voilà qui baptise. Et tous viennent vers lui. Crise de jalousie. C'est net.
Crise de jalousie entre les disciples, du moins, crise de jalousie des disciples de Jean par rapport aux disciples du Christ. Et cette petite crise de jalousie a pris son point de départ à propos des discussions de purification.
On voit très bien la scène. Il suffit de voir les clochers à hauteur différente dans les petites paroisses les unes à côté des autres. Et il faut nécessairement que le clocher de ma paroisse soit plus haut que le clocher de la paroisse à côté, pour qu'on fasse davantage attention. Crise de jalousie.
On a déjà vu la jalousie, hein, avec Cain et Abel. Alors on la retrouve dans Saint Jean. Jean répondit, il dit, un homme ne peut rien prendre qui ne lui ait été donné du ciel. Vous-même témoignez que j'ai dit, je ne suis pas moi le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Celui qui a l'épousé est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix d'époux. C'est donc ma joie, la mienne, et elle est en plénitude. Quand on est jaloux, on est de mauvaise humeur et on est triste. Et Jean apparaît en face de ces hommes jaloux en plénitude de joie. Il faut que celui-là croisse et que moi je diminue. Comme Jean est un merveilleux père-maître, il donne un enseignement merveilleux pour supprimer la jalousie. Une des choses les plus difficiles à supprimer, parce qu'on a beaucoup de peine d'avouer qu'on est jaloux. La bête est tapie, là. Alors, on a beaucoup de peine, c'est toujours un peu encombré. On avoue beaucoup plus facilement qu'on est orgueilleux que jaloux. Très curieux, ça. Il y a un côté plus affectif dans la jalousie. Et puis surtout, la jalousie, c'est parce qu'on manque de grandeur d'âme. La jalousie rétrécit, toujours. Elle nous replie sur nous. Alors que la magnanimité, c'est juste inverse. Quand on aime, on donne tout. On ne garde rien. Alors, je comprends très bien qu'on a beaucoup de peine à avouer la jalousie, puisque c'est le signe d'une âme trop repliée sur elle-même. D'une âme trop petite. Alors, on regarde ceux qui sont proches de nous. C'est toujours par curiosité que naît la jalousie, hein. Toujours. On est curieux. Cain louchait. C'est une manière de présenter la curiosité, parce que si Cain avait été uniquement à ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire uniquement adorer, quand on adore, on ne regarde pas le voisin. Quand on adore, on est tout entier reclus en Dieu. Ici, on est très bien. Ils ont fait attentif au clocher d'à côté. Celui à qui tu as rendu grâce, le voilà qui baptise. Et tous viennent vers lui. À la place d'être dans la joie de voir que tous suivent à travers Jésus, Jean. Et donc, sont à l'unisson avec les disciples de Jean. Puisque c'est Jésus qui a rendu témoignage. Et pas du tout. Alors, voyez comment Jean-Baptiste va corriger la jalousie. Une conscience plus aiguë que tout ce qui en nous est de bon vient de Dieu. Un homme ne peut rien prendre qui ne lui ait été donné du ciel. Tout ce que nous avons comme qualité, Tout cela nous est donné gratuitement. Et par le fait même, on ne peut pas s'enorgueillir et on ne peut pas être jaloux que d'autres ont des dons que nous n'avons pas. Nous devons être très heureux puisque ces dons viennent de Dieu et donc ils sont manifestés dans d'autres. La manne est tombée dans le vase du voisin, vous voyez. On est très très heureux de voir ça. Très heureux que l'autre passe devant. Puisque ça vient de Dieu, c'est pas nous. C'est pas nous qui faisons le partage. C'était nous qui faisons le partage très différent. C'était des hommes qui faisaient le partage très différent. Mais c'est pas nous, c'est Dieu lui-même. Directement. Alors on peut pas dire qu'il a mauvais goût. On peut pas dire qu'il s'est trompé. On ne peut pas dire qu'il a jugé sur les choses extérieures, non, on ne peut pas dire ça. Un homme ne peut rien prendre qui ne lui ait été donné du ciel. Vous-même témoignez que j'ai dit, je ne suis pas moi le Christ, mais je suis envoyé devant lui, celui qui a l'épousé et l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. C'est donc ma joie, la mienne, et elle en est en plénitude. Il faut que celui-là croisse et que moi je diminue. Alors comprenons bien ce regard sur Jésus. La jalousie ne peut être dépassée que par une autre jalousie. L'amour ne peut être mesuré que par un autre amour. Alors que signifie la jalousie quand elle est attribuée à la passion? Ça veut dire qu'on ne tolère pas qu'un autre puisse avoir des qualités que nous n'avons pas. C'est ça, on est jaloux que celui qui est à côté de nous a 5 talents. Et nous, tout juste, il y en a 2. 1,5. Alors dit vraiment, c'est pas juste. Hein, c'est pas la question de la justice. C'est la question de la gratuité de l'amour. On sera tout à fait d'accord pour soi. C'est la gratuité de l'amour, mais pas pour le voisin. Mais c'est pas nous qui mesurons l'amour. C'est Dieu qui mesure l'amour. Et c'est le choix de sa sagesse. Et c'est Dieu seul qui mesure l'amour. Alors, on comprend comment Jean-Baptiste veut lutter contre la jalousie de ses disciples par rapport à Jésus. Par rapport à tous les disciples du Christ. Alors, Jean-Baptiste montre l'amour tout à fait particulier de Jésus, il est l'époux. Entre l'époux et l'épousé, il y a un lien unique. Il y a une jalousie d'amour, une jalousie divine d'amour. Ça, c'est aussi très beau. La jalousie humaine fait qu'on ramène à soi. C'est un aspect possessif. C'est un amour possessif qui est toujours à l'origine de l'orgueil. Et on ne tolère pas que les autres aient plus. On ne tolère pas qu'ils puissent avoir plus. Parce qu'on ne tolère pas qu'ils soient plus aimés. Alors, on comprend comment il faut faire appel direct à la jalousie du Christ pour sauver cette tentation de jalousie à l'égard des autres. Puisque la jalousie à l'égard du Christ est infiniment plus grande. Donc, elle relativise le reste.
Alors, c'est très beau de voir ce que fait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se met du côté de ses disciples. Il ne veut pas sortir, il se met du côté de ses disciples. Il est avec ses disciples. Et c'est pour ça qu'il se considère comme l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend. Il est ravi de joie à la voix de l'époux. L'époux, c'est Jésus. L'épousé, c'est les disciples du Christ. L'épouse du Christ, c'est l'Église. Tous ceux qui sont appelés par Jésus, tous ceux qui font la nouvelle alliance, c'est l'Église. Alors c'est cette alliance nouvelle qui repose sur une jalousie d'amour. Jean-Baptiste, lui, se considère comme l'ami de l'époux. C'est très beau. Se considère comme l'ami de l'époux, qui se tient là. C'est vrai, il est l'ami de Jésus. Mais il se considère, parce que c'est sa fonction, de rester là au seuil. Il a vu deux de ses disciples suivre Jésus. Ça, ça a dû lui faire réfléchir. Hein. Et lui devait rester au désert pour baptiser, être précurseur. Et c'est pour ça qu'il se considère comme l'ami. Il est celui qui coopère avec Jésus. Et qui coopère avec Jésus de manière active, puisque il permet aux disciples du Christ d'être plus nombreux. Il coopère avec Jésus comme un ami. Et il est heureux de voir que Jésus est plus présent à l'épouser qu'à lui. Vis-à-vis de lui, il a fait que passer. Vis-à-vis des autres, il demeure. Et il le sait. Jean demeure auprès de Jésus. Jean, le disciple bien-aimé. Et Jean-Baptiste, il fait que passer. Alors il se considère comme celui qui coopère avec l'époux, et au fond, c'est sa plus grande joie. C'est par là qu'il est joyeux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, donc qui est avec vous, qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Et on dit la voix de l'époux. La voix de l'époux, c'est quand l'époux parle à l'épouse. Il est donc ravi de voir que l'époux est tout entier tourné vers l'épouse. Il est heureux de ça. C'est donc ma joie, la mienne. Et elle est en plénitude. Il faut que celui-là croisse et que moi je diminue. C'est très très fort ça. Vous voyez, l'ami de l'époux, donc Jean-Baptiste, dit que sa plus grande joie, c'est d'entendre la voix de l'époux. C'est de savoir que Jésus est occupé avec l'épouse. C'est de savoir que Jésus est tout entier tourné vers l'épouse. Donc vers les nouveaux disciples. Ceux qui représentent ce nouveau noyau des disciples, ceux qui représentent la nouvelle alliance. Ceux qui sont la nouvelle alliance. Et Jean-Baptiste, lui, reste là uniquement pour coopérer. Et ce n'est pas sa vocation. Alors, il est à côté. Et il n'est pas jaloux, il est dans la joie. Il a dépassé ce qu'il pouvait y avoir de difficile, de dur. C'est-à-dire que chez lui, il y a une ascèse extraordinaire. Alors, on comprend ce dépassement qu'il fait. Et ce dépassement qu'il le fait par amour pour l'époux. C'est-à-dire qu'il le fait par amour pour Jésus, en tant qu'époux. Pour que l'époux soit plus avec l'épouse. Il le fait donc en offrant tout ce qu'il peut offrir. Il faut que celui-là croisse et que moi je diminue. Alors nous continuerons la fois prochaine.